Merci pour cette présentation vraiment passionnante. Moi, j'avais juste une question. Vous avez mentionné la résilience des infrastructures. Est-ce qu'il y a une étude, enfin, des études qui sont menées et des obligations d'études à l'échelle européenne, peut-être, concernant la résilience et l'adaptation au changement climatique? Parce que pour l'instant, vous avez parlé déjà dans le Green Deal de tout ce qu'on a à faire pour prévenir, mais je pense que là, on a aussi des problèmes d'adaptation majeurs.
Bon, à ma connaissance, il n'y a pas d'étude au niveau européen sur ce domaine. Mais par contre, il y avait une volonté très forte donc, du Parlement, qui je crois est à l'origine de cette disposition dans le règlement MIE, de faire en sorte que le MIE puisse de plus en plus investir dans des domaines comme cela, à la demande des États membres. Alors c'est bien sûr il y a la question climatique, il y a aussi toute la question, comment dirais-je, tremblement de terre, éruption volcanique dans certains États, qui est aussi très importante. Et qui souvent n'est pas suffisamment prise en compte, n'a pas été dans le passé suffisamment prise en compte au moment où l'infrastructure a été construite.
Oui, bonjour, Tizouette Fage. Vous parlez de nouveaux corridors Bordeaux, Toulouse, Narbonne et d'autres corridors en Europe, mais quid des anciens corridors qui aujourd'hui ne sont pas bouclés? Donc c'est bien d'en faire des nouveaux, mais pourquoi pas finaliser ce qui existe déjà pour l'aménagement du territoire? Et je pense que ça fait une des parties, des six parties du plan Europe, la nouvelle gouvernance, parce que l'on attend quand même certains maillons. Alors en France, on voit qu'il y a des problèmes de financement. Pourquoi l'Europe ne pousse pas un peu plus, n'abonde pas les financements pour finir ces corridors avant d'en faire d'autres? Merci.
Vous avez tout à fait raison. Hein. Alors, plusieurs éléments de réponse là-dessus. D'abord, et vous voyez volontairement, je ne l'ai pas évoqué, parce que nous n'avons pas d'intention a priori de le modifier, on reste toujours sur le fait que les corridors doivent terminer en 2030. Et probablement qu'il n'y aura pas de modification législative, en tout cas dans la proposition de la Commission, sur ce plan-là. Donc on reste tout à fait en ligne, en tout cas avec cette volonté de terminer les réseaux centrales, en particulier les corridors, pour 2030. Alors, pourquoi avoir par ailleurs augmenté? Parce que ce n'est pas qu'on a fait qu'augmenter, hein, on n'a pas réduit les corridors. Vous aviez, en particulier en France, un sentiment, mais pas uniquement en France, qu'une partie du territoire français n'était pas suffisamment couverte. Et quand on regarde ce qu'on a rajouté, ça fait relativement sens sur un plan européen. Sauf peut-être, pour être tout à fait franc, la partie Bordeaux, Toulouse, Narbonne. Quand on voit que les autorités françaises n'investissent pas toujours suffisamment avec l'Espagne, avoir accepté cette partie parallèle aux Pyrénées, c'est peut-être... Mais il y avait aussi la volonté de relier deux métropoles, qui sont quand même deux métropoles importantes, aussi au niveau européen, et qui pour l'instant n'étaient pas au centre d'un corridor. Alors, ce que l'on a fait aussi, on a essayé de prendre en compte certains critères pour l'augmentation des corridors, qui étaient les suivants. Meilleure connexion des ports. Jusqu'à présent, vous verrez par exemple, en partie de ce qui a été fait en France, c'est la volonté de mieux relier les grands ports à l'intérieur. Aligné avec les corridors de fret. Vous savez qu'il y a cette vieille notion de corridor de fret qui est un autre règlement européen et assez paradoxalement, les corridors de fret ne correspondent pas toujours aux corridors RTOT, donc aligner les deux. C'est ça qui a été fait aussi. Insister sur le transfrontalier. L'augmentation des corridors, par exemple par Seychelles, c'est clairement du transfrontalier. Et enfin aussi sur la navigation intérieure. Ça ne correspond pas à la France. On a augmenté les corridors lorsque c'était de la navigation intérieure. Bon, ceci étant, l'augmentation des corridors, je crois qu'au niveau européen, on est à peu près à plus 20%. Donc, ce n'est pas non plus trop important. Mais vous n'avez pas tort, hein, on pouvait se poser la question, est-ce qu'il n'aurait pas fallu en rester là? Ceci étant, tout ça a été demandé par les États.
C'est pas gênant d'augmenter si on finit ce qui s'en lance.
Ouais.
Enfin, voilà, l'un n'empêche pas l'autre.
Tout à fait, mais ça c'est la volonté.
Sur la partie Green Deal, vous avez présenté la chose comme étant forte accélération de l'électrification, je crois que vous avez vu les prix. J'ai évoqué le risque de ça puisse faire un peu du charbon, mais plus globalement, est-ce qu'il y aura des perspectives, des rencontres d'une copart des producteurs de l'énergie nucléaire, d'une part, et d'autre part, est-ce que le sujet de fait du nucléaire est considéré comme un sujet neutre, non pas carbone, mais environnemental dans la réflexion?
Alors, il y a déjà une directive qui va certainement être renforcée, qui n'est pas transport, sur la part d'énergie renouvelable que les États membres doivent progressivement mettre en œuvre. Donc ça existe déjà au niveau européen. Sur la question, toujours dans ce sens-là, de plus en plus effectivement, on se demande si lorsque, par exemple, on finance via le MIE, des plateformes de recherche pour du transport urbain, qui est un domaine important, on ne devrait pas exiger que l'électricité en question, et maintenant c'est possible de tracer cela, l'électricité en question soit nécessairement générée à partir de sources d'énergie renouvelables. Ou on fait la même chose sur des îles, de plus en plus, là aussi. Et souvent la génération sur les îles, c'est encore une génération thermique. Non, à ce moment-là, de dire on ne va pas financer la mise en place de flottes de bus électriques s'ils se rechargent avec une électricité thermique. Donc, pour répondre à votre question, d'une part, il existe au niveau européen, de manière générale, une directive sur la génération d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, et d'autre part, on réfléchit de plus en plus, dans le contexte du financement MIE, d'aller au-delà. Finalement, de dire qu'on finance ce qui est politique, mais d'imposer, c'est une réflexion, d'imposer une certaine manière de générer cette électricité. Alors, sur le nucléaire, vous savez que c'est une question qui a été largement débattue. Je sais que les ministres, dans le domaine de l'énergie, récemment, le ministre des Finances d'ailleurs, devaient faire ce qu'on appelle il y avait un terme qui a été utilisé, qui m'échappe actuellement, mais qui était de déterminer quels sont les actifs dans lesquels on peut investir et qui sont considérés comme des actifs verts. Il y a eu tout un travail de fait dans ce domaine-là. Et que ce travail, pendant longtemps, a achoppé, entre autres, sur la question du nucléaire. Alors, la question du nucléaire, elle est vieille, comme la construction européenne. On a un traité Euratom, qui, en principe, s'applique à tout le monde, mais comme on le sait aussi, il y a un choix qui est très, très différent entre les États membres, puisque vous avez des États membres qui ont fait le choix de ne pas avoir du tout d'énergie nucléaire, par exemple l'Autriche, alors que vous avez des États membres qui ont fait le choix à l'inverse d'en avoir une part importante, comme c'était le cas de la France jusqu'à présent. Pas en dire plus.
Julien.
Oui, vous avez donc, je suis en train de ne pas trop entendre.
Oui,
bonjour, quand une personne me dit sur le réseau de distribution en France, là, l'électricité, j'avais aussi une question, là, sur cette notion d'électrification en lien avec les carburants alternatifs. Vous parliez d'éventuelles difficultés de tenue du réseau. Donc, en France, il y a une étude de RTE, là, de transport d'électricité, qui montre qu'il n'y aura pas d'un point de vue système à l'intégration d'un mobilité électrique, ou même à la maille du réseau de distribution, que ce soit en termes d'investissement, on a aussi mis ça en évidence. Et du coup, le questionner sur les disparités territoriales du coup, au niveau européen sur cette question-là, de l'intégration d'un mobilité électrique dans le réseau, et du coup, est-ce que, dans le réseau d'électricité, de distribution ou de transport, est-ce que du coup, il y a une vision un peu européenne qui existe? Cette question-là, est-ce qu'il y a des études, est-ce que vous-même, vous avez une vision un peu de ce qui se passait par État membre?
Non, pas très précise, mais en tout cas, du côté de la Commission, on se pose quand même la question. Moi, je ne connais pas les deux études auxquelles vous avez fait référence pour la France et pour l'Allemagne, mais en fonction du rythme d'accroissement d'une flotte de véhicules automobiles et de camions électriques, en fonction de cela, vous avez quand même des tensions sur le réseau qui pourraient avoir lieu. Alors, tout dépend bien sûr de ce rythme d'accroissement. Mais les voitures électriques, c'est quand même quelque chose qui consomme de manière considérable. Ensuite, tous les réseaux n'ont pas la même capacité de résilience, sans doute, que le réseau français ou le réseau allemand. Vous avez des réseaux qui ont une capacité de résilience beaucoup plus faible. Beaucoup, beaucoup plus faible.
Oui, la dernière question.
Oui, c'est une question pour... j'aimerais que vous précisiez un petit peu quels sont les objectifs pour tout ce qui est transport en milieu urbain. C'était assez peu abordé. Oui.
Alors, c'est un sujet qui est pas très facile parce que, en principe, la Commission n'a pas de compétence réelle dans le domaine du transport urbain. Ou, plus exactement, elle a toujours considéré que ça relevait en premier lieu de la subsidiarité. Ceci étant, tout le monde sait que le problème en particulier de congestion urbaine est un des problèmes duquel résultent la pollution les émissions de gaz à effet de serre. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais des réflexions qui sont menées en matière de nœuds urbains dans le contexte du RTET. Le budget qui est donné dans le cadre du MIE ne permettrait pas à la Commission de financer le transport urbain. Ligne de métro, ça coûte très cher, même ligne de tram, ça coûte très très cher, et ce n'est pas tellement le lieu pour le MIE que de financer ce type de choses. Maintenant, on peut concevoir qu'il y ait un rôle pour le MIE dans le contexte des réseaux transeuropéens de transport pour trois choses en milieu urbain. Première chose, tout ce qui est le lien entre la ville et le réseau. Et là, vous avez les connexions vers les aéroports, les connexions vers des gares TGV, par exemple, qui peuvent de plus en plus se trouver à l'extérieur de la ville, etc. Ça peut être un domaine qui pourrait être financé par le MIE. Ensuite, vous avez toute la question de la distribution du fret en milieu urbain. C'est un problème réel. Et le financement, par exemple, de plateformes de distribution pour éviter l'entrée de poids lourds dans la ville, ça, c'est aussi quelque chose qui permet de relier la ville au réseau et qui fait tout à fait sens. Ensuite, vous avez toute la problématique, justement, de la mobilité propre en milieu urbain et en particulier des stations carburant alternatif, mais surtout pour le transport urbain, carburant alternatif, électricité. Ça, c'est aussi quelque chose qui fait tout à fait sens. Et enfin, vous avez ce que j'appellerais des questions un petit peu de transport urbain pilote. Pourrait aussi trouver à être financé dans le MIE. Par exemple, l'utilisation de la voie d'eau en termes de transport des passagers. Ça a été un échec à Paris, mais on pourrait concevoir que ça pourrait être développé à d'autres endroits. Ça peut être aussi développé en termes de fret. Vous avez aussi peut-être des questions de mobilité urbaine via des drones, etc. Vous avez des projets pilotes en ce sens peuvent trouver leur intérêt en milieu urbain.